On accueille Léonie au 3921. Léone, pardon. Bonsoir Léone.
Bonsoir Monsieur Delacroix.
Bonsoir.
Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu parler un petit peu avec moi.
Mais je vous en prie.
C'est très important. Voilà.
Je vous écoute, Léone.
Je sais que vous aimez la Deuxième Guerre mondiale, donc j'aurai l'occasion avec vous de beaucoup en parler. Mais avant, je tenais à vous dire quand même, pour vous, que vous avez une voix extrêmement douce qui permet, à mon avis, aux gens que vous avez et qui vous posent leurs problèmes, de repartir avec, disons, plus de courage que quand ils sont arrivés. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire déjà en premier.
Merci, Léone.
Je me permets de vous dire que je suis une petite jeune fille.
D'accord. Qui fête combien de printemps ?
Je vous entends mal.
Alors, vous disais qui fête combien de printemps ?
Je suis une petite jeune fille de 95 ans.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
J'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et cette Deuxième Guerre mondiale a été vraiment très, très méchante avec moi. Voilà, je vous explique.
Oui.
Le 1er septembre 1939, j'avais 13 ans.
Oui.
J'avais un papa adorable. Je dis toujours papa, vous voyez, j'ai 95 ans, c'est toujours mon papa. Bien. Ce papa est parti le 3 septembre 1939 à 15h de l'après-midi. Je vais vous dire, c'était un monsieur si bien qu'avant de partir, comme tous les jours il faisait, je suis venue sur ses genoux et il m'a dit « Ma petite fille, dans la vie, on a des devoirs. Sache t'en souvenir. » Donc ça, c'est une chose dont je me suis toujours souvenue, naturellement. Et puis, nous sommes partis avec ma maman chez mes grands-parents, à quelques kilomètres de notre village. Et là, nous avons passé la guerre, là, et moi, j'étais en pension pour les études. Je revenais toutes les semaines. Et j'avais 15 ans. En allant à la messe, parce que j'allais à la messe tous les dimanches, bien sûr, je priais pour que mon père rentre, c'était tout à fait logique.
Bien sûr.
Et dans l'église, tous les dimanches, venait avec sa famille un très beau jeune homme. Nos yeux se sont rencontrés dans l'église et le soir même, il venait accompagné d'un autre monsieur chez mes grands-parents qui, eux, avaient un café-hôtel-restaurant. Donc ce jeune homme s'est mis à côté de moi, naturellement. Je pense que si j'avais pu me voir, je devais être rouge comme une fraise. Ça, c'est certain. Voilà. Donc ce jeune homme, j'ai eu avec lui, comme on dit, les premiers émois. Et ce jeune avait dans la tête d'être résistant. Il voulait faire de la résistance. Dans ce temps-là, vous savez, on se vous voyait. Hein. Je lui ai dit, vous savez, c'est pas raisonnable. Vous allez donner toute votre famille va être dans le souci, et moi donc.
Eh oui, et vous aussi.
Alors, il m'a dit, ah mais si, je vais me mettre. Donc, il est rentré dans les FTP, les francs-tireurs partisans.
D'accord. Bien.
Et ce jeune, nous nous sommes fréquentés donc de 1942 à fin 43. Disons, on se voyait toutes les semaines quand je revenais de l'école. Mm-hmm. Puis, comme je vous dis, il est rentré dans la résistance, mais il n'a jamais, jamais, jamais manqué de venir quand même tous les samedis, tous les dimanches pour me voir. Ça, c'est certain, jamais il a manqué. Oui, mais évidemment, il faisait des gros coups. J'ai donc expliqué, et ça serait trop long à vous l'expliquer là maintenant, j'ai expliqué à une jeune fille qui m'a appelée tout à l'heure charmante, qui m'a dit « Voulez-vous me raconter quelque chose ?» Donc, je lui ai raconté naturellement. Et avec cette jeune fille, j'ai tout dit, mais évidemment, au dernier moment, je ne me rappelais plus là où il avait été, en fait, envoyé très vite fait, parce que ce monsieur, il a tué un général allemand.
Ah bon ?
Il parlait l'allemand couramment, mais l'allemand avec l'accent suisse. Donc, il y avait un accent spécial. Il était grand, il était blond, donc on aurait pu dire un allemand. Ça, c'est vrai. Il avait ça pour lui permettre de faire ça. Et donc, ce jeune, il a trouvé le moyen d'avoir un habit allemand de soldat, donc de soldat normal, vous voyez, qu'aller chercher, ou un général ou autre, effectivement. Il est venu à l'hôtel Trianon à Versailles. Et là, il est passé devant l'endroit où il y avait les Allemands qui étaient là, qui gardaient l'hôtel Trianon. Il a dit « Je viens chercher le général ». Il a tué le général. Il est redescendu, habillé en général. Et il a repris sa voiture, voiture allemande, naturellement, qu'il avait volée. Et évidemment qu'il s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Ils étaient montés tout de suite dans la chambre du général qu'ils ont trouvé tué. Donc lui s'est fait arrêter à l'octroi de Versailles.
Oui.
Ils l'ont arrêté et évidemment ils lui ont dit « mais il faut nous répondre ce qu'on vous dit ». Il savait qu'il avait. Donc là, il s'est fait arrêter. Il est monté, comment dirais-je, ils l'ont pris et ils l'ont monté au Mont-Valérien. Ils ont appelé les parents. Le père était un monsieur avec de très grosses relations. Ils l'ont donc, comment dirais-je, ils lui ont dit, bon, attendez, on va faire quelque chose. Est-ce qu'au lieu de le fusiller sur le champ, ce qu'il méritait, pensez-vous qu'on puisse l'envoyer en camp ? C'est tout ce qu'on vous propose. Ils l'ont envoyé en camp. Là, un monsieur qui pesait 75 kilos au moins, oui. Il est mort. Ça a été dit par son copain qui était avec lui qu'il s'était fait naturellement dans le camp. Il est mort. Il pesait 28 kilos.
Mais dis donc.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Bon.
C'est pas beaucoup.
Ça, c'était. Je l'ai appris par son frère, un de ses frères, qui est venu me le dire le 14 juillet 1945. Mon père, lui, était parti à la guerre. Il était dactylo à la ligne Maginot. Il est resté à travailler jusqu'au moment où il a été pris par les troupes d'Hitler. Il a été envoyé au camp prisonnier de Berlin, à Berlin-Pankow,
oui,
dans l'est de l'Allemagne. Il a voulu faire de la résistance, lui aussi. Mon père étant un électricien, et il faisait, on les emmenait à Siemens, où ils pouvaient travailler. Mon père a dit, j'y vais. Il y a été naturellement pour faire des tableaux, mais des tableaux qui ne marchaient pas. Ils s'en sont aperçus. Mon père a passé le reste de la guerre dans une cuve, enfin disons dans un local où il y avait une cuve, où il tournait du goudron. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il a pu respirer pendant tout ce temps. Et on attendait mon père naturellement, puisque la guerre s'est terminée en 1945. Et c'est dans la nuit du 8 au 9 mai 1945 que la guerre s'est terminée.
Oui.
Donc on attendait, on s'est dit, papa, moi je disais, papa va rentrer, ça y est. Voilà, oui. Malheureusement, c'est un jeune qui est avec lui au camp, qui s'est occupé de lui jusqu'au dernier moment, qui est venu nous apporter ses papiers, comme quoi il était mort dans la nuit du 8 au 9 mai 45.
Ah bon?
Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Il est mort de quoi?
Je ne vous entends pas, monsieur de
Il est mort de quoi, Léon?
Eh bien, il est mort, je vais vous expliquer. Il avait fait une néphrite. Donc, les Allemands l'avaient du camp, ils l'avaient envoyé à l'hôpital. Ils étaient 100 dans la même salle. Oui, mais il était côté russe, mon père, vous voyez.
Oui.
Voilà, oui. Les moujiks, vous savez, ce n'étaient pas des gens très, très pratiques, ceux-là. Les moujiks sont arrivés dans la nuit. Il y a une grosse bagarre pour prendre ce quartier-là.
Oui.
Et ils sont rentrés dans la salle. Les sangs ont été piqués, mis dans une tombe où ils étaient sans. Je vais vous dire, heureusement, mon papa, il lui manquait un petit doigt de pied à chaque doigt de pied. Et la personne, c'est une militaire qui a été le reconnaître, parce qu'elle le connaissait. Heureusement qu'en fait, on a pu quand même avoir son vrai corps. Parce que vous vous rendez compte, quand vous en avez 100 dans la même tombe,
oui, oui.
C'est quand même un peu beaucoup. Hein.
Mmh, mmh.
Voilà. Mais vous savez, monsieur Delacroix, là, je vous dis une toute petite chose, mais je crois avoir demandé si c'était possible que je puisse vous parler, parce que cette guerre, ça a été quelque chose d'épouvantable. Épouvantable. Je peux vous dire que du premier jour, on nous a dit, j'ai entendu des dames qui disaient que les Allemands étaient gentils avec les enfants. Comment ça? Pas du tout. C'était des pourris. C'était des pourris, ces gens-là.
Ah oui?
Ah oui, moi, vous savez, je vais vous dire, j'ai ça dans le cœur, ça ne peut pas passer. Comme je vous dis, j'ai 95 ans, je revois encore mon père comme si c'était aujourd'hui. Je trouve que malheureusement, à cause de cette guerre, je n'ai pas eu la vie que je devais avoir. Et après, j'aimerais vous le dire, mais bon, mais c'est très, 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 très long. Évidemment, quand mon père est décédé, 14 juillet, le jeune homme avec qui je pensais me marier.
Oui.
Oui. 15 août, la mort de mon père. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Je l'ai fait dans ce temps-là. On disait, on fait de la neurasthénie. J'en ai fait jusqu'en 1950. Voilà. Et quand je me suis mariée, naturellement, eh bien, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie parce que c'était pas l'homme de ma vie. Voilà. Et
ça n'était pas l'homme de votre vie, mais ben non, l'autre homme était mort,
je
c'est ça
vous... Je crois que je deviens sourde. Je ne vous entends pas du tout.
Non, mais si j'ai bien compris, l'homme de votre vie était mort prisonnier, c'est ça?
Ah non. Il est mort au camp, lui. Il est mort au camp de concentration.
Oui, bah, prisonnier, c'est ça.
Oui. Oui, si l'on veut. Oui, ils étaient prisonniers au camp de concentration.
Ils étaient prisonniers au camp de concentration.
Oui, ça s'appelait Ebensee. C'était à 3 km environ. Oui, environ 3 km d'Auschwitz.
Mm-hmm.
Et quand l'armée de Patton est arrivée, parce que, bon, enfin, évidemment, il y a un moment où ils sont arrivés et ils ont vu ces camps épouvantables. Mais ils ont voulu, les Allemands ont voulu tout concentrer sur Auschwitz. Et lui, le pauvre malheureux, il avait attrapé une pleurésie parce que toutes les nuits, étant donné qu'au camp, il faisait encore un genre de résistance,
oui.
Il le faisait sortir toutes les nuits, aussi bien 2h, 3h, 4h du matin. Il fallait qu'il vienne nu et restait 2h, 3h dans la neige, les bras croisés. Vous vous rendez compte un petit peu. C'est...
De toute façon, c'est... vous avez raison de dire que ça n'était pas des tendres. Hein. Ça n'était pas des tendres, tous ces gens-là.
Non, comme vous dites, c'était vraiment pas... Non. C'était pas des gens... Non. Je peux pas vous dire qu'il faut pas me parler de ça parce que ça me stresse énormément. Déjà, là, je suis stressée de vous parler. Je ne peux pas... J'aurais préféré... Mais je sais bien que vous avez pas le temps. Mais j'aurais préféré vous parler tranquillement. Que vous m'appeliez chez moi. Je sais bien que c'est pas possible. Alors, voilà. Sinon, là, je vous en aurais dit beaucoup. J'ai même assisté à l'explication de la bataille de Stalingrad.
Oui.
Qui nous a été expliquée par un Autrichien, bien sûr, qui maintenant avait compris ce qu'était cette saleté Hitler. Hein. Donc, ce monsieur, il est venu expliquer au frère de mon père qui, lui, n'a pas pu partir en guerre parce qu'il était malade. Il est venu nous expliquer et l'homme de ma vie était là aussi. Il leur a expliqué ce qu'avait été la bataille de Stalingrad. C'était extrêmement intéressant, naturellement. Parce que, évidemment, Hitler, à ce moment-là, avait lancé la bataille de Stalingrad parce qu'il pensait pouvoir récupérer, comment on appelle ça, l'essence, enfin oui, le gasoil, je ne sais pas comment.
Oui, oui.
Voilà, c'était pour les avions, c'était pour tout ça. Oui, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Russes étaient tout prêts pour le ficher la figure, ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont perdu la bataille de Stalingrad.
Oui.
Et c'est de là que Hitler a commencé à tout perdre. Et alors, pour vous terminer, parce que je suppose que vous n'avez pas que moi à entendre, je vais vous raconter quelque chose de très mignon. Parce que, enfin, la guerre est arrivée. Et le 15 août 44, j'étais en train de remettre sur le bord de fenêtre de la salle à manger de mes grands-parents de gros pots de géranium qui étaient très lourds pour moi. Bien. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois arriver ? Le 15 août 44, à 11h juste, je vois arriver une Jeep et j'entends « Hello girl !» Ça m'a tellement surpris. J'ai fichu le pot de géranium par terre. Mon grand-père, qui n'était pas un monsieur pratique, est venu vers moi. J'ai reçu une bonne paire de gifles. Mais je dis « Regarde, grand-père, regarde ce qui nous arrive !» Alors là, il a compris. Il m'a dit ben, « Tu m'en veux pas ?» J'ai dit « Non, tu te rends compte si on est heureux. » Et c'était... les troupes de Patton qui étaient arrivées à Rambouillet et M. Hemingway faisait partie de la troupe de Patton. Est-ce que vous saviez tout ça ?
Non, je ne savais absolument pas tout ça, vous voyez ?
Eh bien voilà.
Absolument pas tout ça.
Vous avez appris un petit quelque chose. Ouais,
exactement, exactement.
Et si vous voulez que je vous en dise plus...
Ah bah Florian m'a noté votre numéro de téléphone, exactement.
Voilà, Monsieur Delacroix, vous m'appelez à partir de 3h de l'après-midi.
D'accord.
Je suis prête à parler longuement avec vous.
Ah bah écoutez, c'est très gentil, Léon.
Et bah si ça vous intéresse.
Oui, oui, ça m'intéresse. Vous savez que ça m'intéresse beaucoup.
Ah, je sais.
Vous savez.
Je sais que vous êtes effrayant.
Exactement.
Oui, je sais. Mais c'est bien.
Oui, oui, bah savez, j'aime bien entendre parler de...
Je vais vous expliquer. J'ai un arrière-petit-fils de 18 ans.
Mmh.
Il me dit toujours, grand-mère, explique-moi ce que tu as vécu. Et il est tellement heureux, si bien que je vais vous faire rire. Je vais raconter bien sûr beaucoup sur la guerre, c'est ça qui l'intéresse. Et là, il passe son bac là, cette année.
Oui.
Il a fait un contrôle. Dans le contrôle, on parlait de la guerre, etc., etc. Il me téléphone, il me dit, grand-mère, tu te rends compte? Grâce à toi, j'ai eu 18 sur 20.
C'est super, super.
Il était tout heureux d'avoir eu ça. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, je vis dans une jolie petite ville du Sud.
Très bien. Mais écoutez, voilà. Une jolie petite ville du Sud. Vous avez bien de la chance. Bah écoutez, je vous embrasse. Merci mille fois de nous avoir appelé ce soir. Et puis, je ne manquerai pas de vous appeler un après-midi. D'accord, Léon ?
Ça me fera plaisir, monsieur.
Très bien, très bien.
Et infiniment merci d'avoir voulu échanger quelques mots avec moi.
Mais je vous en prie.
Et comme je ne suis pas toute seule, il faudrait peut-être que j'arrête. Voilà. Je vous remercie.
Je vous embrasse.
Moi aussi, je vous embrasse très fort, monsieur Delacroix.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.